I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Emmanuelle n'était pas du genre à aimer le changement. Directrice de crèche pendant des années, maman de deux enfants, mariée, elle a fini par prendre un tournant à 360 degrés pour suivre son envie d'aider les autres. Dans cet épisode, Emmanuelle nous raconte son expérience en tant que directrice de crèche, ses débuts dans la maternité et comment son changement de vie s'est opéré petit à petit, l'amenant à quitter son mari et son travail. Bonne écoute.
Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Merci de nous raconter ton parcours dans le tourbillon.
Ouais.
Alors, comment s'est dessiné ton début de carrière? Tu as fait quoi comme études et vers quoi tu t'es orientée comme métier?
Alors, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire. Je ne savais pas très bien qui j'étais, je pense. Donc, j'ai fait infirmière comme maman parce que je n'ai pas réussi à faire docteur comme papa. En gros, c'est ça. Et donc j'ai fait des études d'infirmière, c'était pas génial, je crois que j'étais vraiment pas à ma place, mais ce qui était canon c'est que j'ai rencontré des gens vraiment super, j'ai vraiment des bons amis que je garde encore aujourd'hui, donc ça m'a permis de tenir, mais le monde hospitalier, le monde médical ne me correspondait vraiment pas du tout, donc j'ai fait ces 3 années là, et puis... Ensuite, je me suis spécialisée, j'ai fait une année d'infirmière puéricultrice, je me suis spécialisée auprès des enfants. J'ai fait une année d'hôpital de nuit, parce que fallait un peu atténuer la hiérarchie et l'hôpital, c'était pas mon truc. Et puis, je suis rentrée rapidement en extra-hospitalier, c'est-à-dire dans les crèches. J'ai travaillé dans les crèches depuis 2002 à peu près. Donc, j'ai été d'abord adjointe de crèche. Et puis pareil, ça me faisait rapidement chier la hiérarchie, donc j'ai pris des postes de direction assez rapidement.
Et d'où venait ce désir de travailler auprès des enfants?
D'où venait ce désir de travailler auprès des enfants? Alors c'est une question, je sais pas ce que j'aurais pu te dire il y a 20 ans, mais à force de travailler sur moi, j'ai envie de te dire que j'avais sûrement envie d'aider les enfants à grandir sereinement, à préserver peut-être leur enfance justement, de ne pas avoir des soucis trop tôt. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais, de préserver la petite enfance et de qu'il ne rentre pas trop tôt dans le monde des adultes.
Et tu me disais d'ailleurs qu'en tant que directrice de crèche, tu t'occupais plutôt des adultes finalement. C'est quoi le rôle d'une directrice de crèche?
Alors, la directrice de crèche, elle entretient un peu cette maison quoi, qui est la crèche. C'est-à-dire, alors moi je parle de mon expérience dans des crèches parisiennes. Donc il y a tout un aspect technique qui consiste à entretenir les locaux ou du moins appeler la personne qui va venir réparer tel truc qui est cassé. Il y a tout un aspect gestion du budget en lien avec toutes les commandes, l'alimentation, les jouets. Les fournitures, enfin les couches, le lait, enfin il y a tout ça à commander. Il y a un aspect managérial où tu accompagnes une équipe de 20 personnes, donc c'est les gens, donc les professionnels qui s'occupent elles-mêmes des enfants. Et puis il y a tout ce qui est l'accueil des familles, s'assurer que tout le monde va bien, le soutien à la parentalité. Donc il y a tous ces aspects différents en fait. Il y a pas... C'est vrai qu'on a tendance à penser que la directrice de crèche s'occupe des enfants. C'est assez fréquent qu'on pense ça, alors qu'il y a un gros aspect managérial, en fait.
Et dans l'accompagnement à la parentalité, qu'est-ce que tu as pu faire pour des jeunes mamans ou des jeunes parents?
Alors, dans l'accompagnement à la parentalité, déjà, t'accueilles T'accueilles une maman, une famille qui veut une place en crèche déjà. Alors moi où je travaillais, ils avaient déjà la place. Il n'y avait pas la notion de est-ce qu'on pourrait avoir la place s'il te plaît madame, donc ça c'était, ça, ça s'était enlevé. Il y a tout ce qui est accompagner cette jeune maman que tu as en face de toi, avec le papa s'il y en a un au rendez-vous. Enfin, ils sont de plus en plus là avec le temps, je trouve. Et dans cette période qui est un peu floue, en fait, où tu as des injonctions de toutes parts, tu as toute la famille qui te donne des conseils, ou personne, ou internet, ou... Et du coup, t'as ce rôle-là, un peu, de les aider, les guider, peut-être. Moi, ce qui était hyper important pour moi, c'est, et ce que je fais dans mon job de coach aussi aujourd'hui, c'est de trouver, aider la personne à trouver ses ressources, en fait. Je pense qu'on a tout en nous, des compétences, et mon travail, c'est d'aider la personne à les sortir, à gagner en confiance, et à trouver sa bonne solution.
Et est-ce que les parents venaient souvent vers toi pour justement te dire s'ils avaient des soucis, ou c'est plutôt toi qui...
Alors en crèche, l'objectif de la crèche, c'est garder l'enfant pour les parents, pour que les parents travaillent ou trouvent du travail. Ça, c'est le truc de départ. Après, on est là pour accompagner l'enfant, pour qu'il passe une bonne journée, pour prendre le relais de la famille. Donc, on voit les enfants évoluer, on voit bien s'il y a des soucis de sommeil, d'alimentation, de développement psychomoteur. Donc, ça dépend. T'as des parents qui vont poser eux-mêmes la question, qui vont venir vers moi. Enfin, t'en as d'autres qui vont se confier à l'auxiliaire de puériculture. Et c'est un travail d'équipe. Donc, après, il y avait des réunions régulièrement où les auxiliaires transmettaient. Les interrogations des familles, et ensemble on réfléchissait à la meilleure réponse. Est-ce que le mieux c'est de conseiller, de les orienter vers la psychologue? Est-ce que c'est que moi je les rencontre? Est-ce que le mieux c'est que l'auxiliaire transmette des choses? Enfin, c'est en crèche, en tout cas, de ce que j'ai pu connaître, c'est vraiment un travail, un réseau qui se tisse pour soutenir la famille.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué pendant ton expérience à la crèche?
Qui m'a marqué, là spontanément, j'aurais envie de te dire, c'est peut-être la façon dont les mamans se sentent de plus en plus paumées. Peut-être que devant la multiplicité des informations possibles. Aujourd'hui, tu vas voir sur Doctissimo ce que t'as, quoi. Tu vas sur un forum, tu vas sur les réseaux sociaux. Tu peux te comparer en permanence à d'autres choses. T'as de l'information en continu. T'as des milliards de bouquins qui existent. Avant, t'avais peut-être un ou deux livres de puériculture, maintenant t'as plein de bouquins, tout le monde y va de sa petite anecdote. Tu rajoutes à ça tout ce qui est commercial, tout ce qui est... avant t'avais une ou deux poussettes, maintenant, putain, trouver ta poussette, c'est un enfer, en fait, c'est un parcours, ouais. Un parcours du combattant. Et tout est comme ça, quoi. La cuillère, le doudou, tout nécessite une réflexion de dingue, et en fait... Peut-être ça, ouais. Peut-être ces gens qui sont un peu paumés au milieu de tous ces trucs-là. Mais ça, on peut le retrouver dans plein de domaines différents. Hein. Le fait que tout soit accessible en un clic, ça perturbe pas mal les repères qu'on pouvait avoir avant. Donc c'est peut-être ça que j'aurais envie de... Enfin, c'est ça qui me vient en tout cas maintenant.
Et même si t'es pas toute la journée comme les auxiliaires avec les enfants, est-ce que c'est difficile chaque année de se séparer de ceux qui vont rentrer à l'école maternelle?
Alors, au niveau de la directrice de crèche, donc, enfin, au niveau de mon expérience en tout cas, je pense que c'est pas difficile parce que l'investissement émotionnel et sentimental est pas du tout le même que les auxiliaires de puériculture qui ont accompagné, qui ont pu accueillir l'enfant quand il avait 3-4 mois, qui étaient dans un accueil quotidien avec des soins de corps... Enfin, c'est vraiment une relation très très privilégiée. Moi, je suis plus distanciée par rapport à ça. Après, bien sûr, il peut y avoir des... De la même façon, je voyais les enfants grandir, mais avec plus de distance. Donc, la difficulté... Enfin, j'ai jamais ressenti... je crois pas autant de tristesse que peuvent ressentir les auxiliaires de puériculture.
Et alors, en perso, à quel moment, toi, le désir de maternité est arrivé?
Alors, en fait, je suis incapable de te dire ça, dans le sens où, pour moi, ça n'a jamais été une question. C'était évident que j'allais avoir des enfants. En fait, c'était... Je voulais des enfants, en fait, je sais pas. c'est pas arrivé, c'est il m'en fallait. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que ça se dit, il m'en fallait. Donc j'ai rencontré le père des enfants je fais vieille, là, en 1996, donc au siècle dernier.
Jadis.
Voilà, jadis. Et puis, on est resté. Enfin, c'était une relation durable, enfin, durable, éco-responsable. Non, mais c'était. En fait, par rapport à mon éducation et ce que j'imaginais et ce que je pensais être juste. C'était lui, il fallait qu'on se marie, on allait avoir des enfants, enfin, c'était un peu le truc tout établi, tout bien rangé. Donc on s'est mariés en 2006, le jour de nos 10 ans de rencontre. Et puis Léo est né quelques mois plus tard, enfin 12 mois plus tard, on s'est mariés en janvier et Léo est arrivé en décembre. Donc voilà, c'était...
La suite logique.
C'était la suite logique, voilà, il n'y avait pas de questions à se poser, c'était j'allais avoir des enfants, quoi.
Et alors, comment s'est passée ta première grossesse ?
Ma première grossesse, j'ai envie de te dire plutôt bien, je crois, mais tu vois, ça commence à dater, hein. Mon bébé est un ado au grand pied, maintenant. Ça s'est plutôt bien passé, je me suis regardée le nombril, j'étais plutôt épanouie, je grossissais, mais bon, c'est normal, hein. Ma foi, on a le droit de grossir, puisqu'on est enceinte. Pour une fois, c'était une des... J'avais le droit, donc c'était cool. Donc non, la grossesse s'est plutôt bien passée. J'avais relativement peur des entretiens médicaux, où j'avais peur qu'on me raconte un truc sur l'enfant, enfin voilà, comme on peut avoir, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il est construit comme il faut. Ouais. Mais non, ça s'est plutôt bien passé, la première grossesse. Enfin, la deuxième aussi, d'ailleurs.
Tant mieux.
Ouais.
Et est-ce que tu t'es sentie à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman ?
Alors, je me suis sentie très, très louve. Mon fils devait naître, le terme était en mois de janvier, et d'un commun accord, donc j'allais dire, il a choisi de naître un mois plus tôt, mais on ne sait jamais vraiment trop comment ça se passe une naissance. Je pense que c'est un savant mélange de la mère est prête, le gamin est prêt, ou je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est maintenant. Et il est né 3 semaines, un mois plus tôt. Et ça a été du coup pour moi, je crois qu'avec le recul, j'avais pas fini, enfin c'était sûr, j'avais pas fini ma grossesse. Donc je l'ai beaucoup porté, je l'ai allaité. On en parlait encore avec une amie, avec la marraine de mon fils cet été, où elle disait qu'elle l'avait pas vu quand il... Elle l'a pas vu parce que je le portais en écharpe et tu vois, en fait, je continue ma grossesse moi. Il était sur moi et puis voilà quoi, touchez pas à mon gosse. Et j'étais très. Ouais, très très protectrice, j'avais peur qu'on me le prenne, il y avait quelque chose qui n'était pas évident. Donc très très fusionnel. Pour te donner un ordre d'idée, alors quand tu accouches, ça t'arrive d'avoir des hémorroïdes, c'est quart d'heure sympa de l'échange, tu vois. Donc t'as des hémorroïdes, donc le truc où t'es hyper à l'aise déjà, tu te dis bon, faut que j'aille consulter, comment ça marche. Donc je suis allée, j'avais mon fils en écharpe et je vais voir la nana que je connaissais pas. Et bon, moi je pensais qu'elle allait me dire c'est bon, hémorroïdes, je vous crois. Je vous donne un truc, bah, elle m'a dit bah non, montez sur la table d'examen. Et en fait, elle avait pas de transat, il y avait rien pour poser mon gosse. Je suis montée avec mon gosse en écharpe sur la, sur la table d'examen. La nana, elle hallucinait quoi. Elle était là, mais ça va pas. Et moi, ça me paraissait, j'étais avec mon gosse et c'était pas possible de m'en séparer à ce moment-là. Donc voilà, c'était assez fusionnel dans le premier mois. Et il y avait aussi cette. Je me souviens, au niveau des soins de, tu vois, de faire le bain et tout ça, tout ce qui nécessitait que je touche le corps de mon fils, en fait, dans le premier mois, je pense, j'aimais pas faire ça. C'était son papa qui le faisait. Et je crois que c'est parce que ça me faisait trop prendre conscience qu'il était sorti de mon corps. Il y avait une espèce de truc où je l'avais collé contre moi ou au sein et j'avais pas bien intégré que le cordon, il était coupé, quoi.
Et alors, au bout de combien de temps t'as compris que...
Ben, j'ai toujours pas compris, je crois.
Ouais, d'ailleurs, il est là, en écharpe.
Alors, mon truc, il a 12 ans et demi. Il est un peu emmerdé de coller à sa mère comme ça. Non, c'était... Je sais pas trop te dire après, ben, la vie fait que, voilà, les choses se mettent en place, qu'il grandit, il s'éloigne de toi corporellement parce qu'il évolue. Mais il y a toujours eu ce lien un peu fort, du coup... du cordon un peu comme ça entre nous deux, là, qui pourtant n'est plus, on est d'accord. Hein.
Et donc 3 ans après, tu as fait ton deuxième enfant.
Ouais.
Comment ça s'est passé cette fois-ci?
Bah écoute, la grossesse c'était un peu différent parce que forcément tu te regardes plus de la même façon, il y a l'autre qui est déjà là, donc c'est pas forcément évident. Tu as moins de temps pour toi, ça passe beaucoup plus vite du coup parce que tu fais plus attention sur l'application, à qu'est-ce qui doit se passer là. Bah la vie défile beaucoup plus vite, les 9 mois défilent beaucoup plus vite. Voilà, après je me questionnais beaucoup à savoir qu'est-ce que je faisais à mon fils là, est-ce que c'était pas l'arnaque absolue d'amener une petite sœur là-dedans quoi.
Tu t'es posé la question du deuxième?
Ouais, je me suis posé la question, enfin elle était déjà enclenchée, hein, enfin.
Oui.
Mais je me posais la question de savoir est-ce que ça allait pas perturber un équilibre déjà en place, et forcément ça perturbe un équilibre d'ailleurs, ce qui est très bien, mais. Donc il y a vraiment ça qui était comme questionnement. Après ça s'est plutôt bien passé. L'accouchement de Léo c'était un peu long. Enfin un peu long, c'était un premier accouchement, donc c'était plus compliqué. Je crois que hypothèse, mais c'était. Je suis arrivée à la maternité vers minuit. Je pense que le gars il voulait dormir, l'anesthésiste, donc il m'avait blindée. Je suis blindée en péridurale histoire de bien tenir toute la nuit. Moi aussi j'ai bien tenu toute la nuit, je sentais plus rien du tout, donc quand on m'a dit il faut pousser madame, ouais ok d'accord, mais comment je pousse quoi, enfin, je comprends pas bien la technique. Donc il est sorti avec les forceps, donc enfin voilà. Donc maintenant je m'étais dit je vais me préparer, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible sans péridurale parce que voilà, fait chier la péridurale. J'ai beaucoup mieux géré les contractions, mais bon, forcément, une deuxième grossesse, tu sais déjà à quoi ressemble une contraction. Tu sais qu'à la fin, il y a un bébé qui sort. Au premier, t'es pas sûr. Tu sais pas ce qui va se passer. Et donc, j'ai tenu plus longtemps cette phase de contraction. La péridurale, je l'ai acceptée, mais à la fin du travail. Et contrairement à Léo qui est arrivé dans un contexte de allez-y dépêchez-vous sinon va y avoir la césarienne, donc t'es là oh putain, Manon bah, elle est arrivée, j'ai éclaté de rire, enfin elle est vraiment arrivée dans un éclat de rire, j'étais plutôt zen. Donc son arrivée était complètement différente. J'étais super étonnée qu'elle ait pas la même tronche que son frère. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi, comment je peux faire 2 bébés et c'est pas les mêmes, un truc, alors que ça paraît évident tu vois. Et puis voilà, puis cette fameuse question aussi de me dire mais merde, qu'est-ce que j'ai fait à mon fils? Alors ça c'est revenu encore. C'est passé comme ça, mais après c'est reparti et c'était ok et j'étais super contente d'avoir ce nouveau bébé tout neuf. Mais c'était une vraie interrogation ça.
Et t'as senti des choses chez ton fils à ce moment-là?
Chez mon fils forcément tu ressens des choses, le gamin il est habitué à être tranquille avec 2 parents et d'un coup il y a une espèce de minette qui arrive qui prend l'attention évidemment, mais entre eux ça s'est plutôt bien passé. Il était hyper attentif à sa petite sœur, elle le regardait avec des yeux comme si c'était un dieu sur terre. Donc non, tous les deux vraiment ça s'est... Il y a une forte relation d'ailleurs entre eux encore aujourd'hui.
Et tu es restée très louve avec ta deuxième ou pas?
Alors beaucoup moins.
Beaucoup moins.
J'étais beaucoup moins louve. Je suis plutôt louve dans l'absolu avec les deux. Mais est-ce que c'est lié à elle? Est-ce que c'est lié à moi? Est-ce que c'est lié à... Je pense que c'est un peu lié à tout ça. Mais Manon a un caractère très indépendant. Elle est très à l'aise. Après, elle est arrivée... Elle était au bout du travail, elle est née à 9 mois, enfin vraiment, je l'ai fini quoi, je l'ai vraiment fini à l'intérieur. Léo il était pressé de se barrer, bah voilà, du coup c'était pas le même modèle de construction. Et c'est, ils ont pas du tout le même caractère, elle est hyper indépendante, elle est très sociable, enfin ils ont rien à voir tous les deux.
Et alors le fait de devenir maman, est-ce que ça t'a aidé dans ton métier et vice versa?
Alors le fait de devenir maman, est-ce que ça m'a aidée? Bah c'était plutôt super compliqué au début, dans l'absolu, parce que tu t'occupes de tes propres enfants et tu vas travailler pour t'occuper des enfants des autres. C'est plutôt assez bizarre comme situation. Tu vois, je me rappelle, par exemple, j'ai allaité mes enfants 8-9 mois, tous les deux. Et en fait, le bureau dans lequel je travaillais était en face de la section des bébés. Et entendre les pleurs des enfants, moi j'avais mal au sein, quoi. Ah oui. Dans les périodes d'allaitement, j'avais les seins qui piquaient, quoi. Ça réveillait. J'étais, putain. Donc forcément, ça a joué un peu parce que j'avais moins envie d'aller voir les enfants. Tu vois, ça, ça me rappelait trop que les miens, ils n'étaient pas là.
Ils étaient où d'ailleurs ? Dans une autre crèche ?
Bah, ils étaient gardés, oui, ils étaient en crèche.
Ils peuvent pas être dans ta crèche à ce moment-là ?
Non, ça se faisait plus, et c'est plutôt une bonne chose, hein, ouais, parce que sinon, c'est plutôt compliqué, tu vois. Et pour les. Parce que t'as quand même un lien hiérarchique avec les personnes qui s'occupent des enfants. Celles qui s'occupent de mes gosses, elles ont intérêt à assurer, parce que sinon, ça va chier. Non, mais du coup, t'as cette notion-là qui est un peu biaisée. Mmh. Et puis, c'est pas évident. Soit tu vas les voir très souvent, soit t'y vas pas. Enfin, je pense que le juste dosage est pas forcément simple. Bon, avant, il y a des choses qui se faisaient, tu réfléchissais peut-être moins. Hein. Mais en tout cas, ça s'est pas fait comme ça.
Et alors, comment t'as fait pour trouver ton rythme au travail ?
Je crois que je prenais pas mal de plaisir au travail quand même. C'est-à-dire que je savais pas trop ce que j'aimais dans l'absolu. Enfin, tu vois, je suis pas une nana qui avait une grande passion pour le tricot, le macramé. Et j'ai mis beaucoup de mon énergie et de mes passions dans le monde du travail, justement. Et autant j'adore mes gosses et les phases de les congés maternité, c'était ok. Autant bosser, c'est quand même cool. C'était quand même cool pour moi. Enfin, j'y trouvais vraiment du plaisir. Je m'épanouissais dans le travail. Donc,
t'as eu un congé maternité différent ou pas quand on est dans la fonction publique ?
Alors, on a pas mal de congés tout court. Donc, je sais plus combien de temps je les ai gardés. Peut-être 8-9 mois. Quoi. Donc, ce qui est mis bout à bout, les congés de l'année et tout. Donc, avril, septembre, ouais, 5-6 mois pour Manon et peut-être un peu plus pour Léo parce qu'il était né en décembre, le temps. Enfin bon. Mais ouais, non, c'est quand même assez conséquent. Donc, voilà, quoi, j'étais prête, quoi. Je voulais bien retravailler en fait. Donc j'ai plutôt passé la période des seins qui piquent, voilà, des moments où tu dis qu'est-ce que je fous là parce que je laisse. Enfin, c'est plus la pensée en fait de dire il y a un truc qui est tordu quoi, tu viens bosser avec d'autres enfants, les tiens ils sont ailleurs, mais dans les faits travailler c'était plutôt ok, c'était plutôt même un souffle hein, d'aller te reposer au travail, ça peut faire du bien quand même.
Et en plus du coup t'avais les mêmes horaires pour aller chercher tes enfants.
Ouais, alors j'ai eu beaucoup de chance, ma belle-mère, ma mère, ma tante qui ont été très présentes et qui sont beaucoup occupées des enfants. Il y avait un planning assez bien chargé comme ça. Et du coup, ils ont pu bénéficier de la famille plus que moi. Moi, la crèche est fermée à 18h30. Donc, pendant longtemps, je suis rentrée à 19h à la maison.
Et alors, à quel moment tu as senti un désintérêt pour ce travail de directrice de crèche ?
En fait, depuis quelques années, j'ai fait un travail sur moi. Enfin, j'allais pas forcément bien dans les années 2000. J'ai entamé une thérapie en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Et à force de travailler sur moi pour me connaître davantage, parce que ce que je te disais, j'ai fait le métier d'infirmière pas par choix, mais parce que ça s'est présenté comme ça, en fait. Je savais vraiment pas ce qui me plaisait en fait, et c'était pas une question. J'étais vraiment démunie par rapport à ça, donc je me suis laissée un peu porter. Alors, l'intérêt pour l'humain est présent, prendre soin d'eux, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi dans tout mon parcours, ça c'est une donnée qui est vraiment là. Donc, à force de travailler sur moi, sur apprendre à qui. Me connaître davantage, puis petit à petit, je commençais à avoir fait un peu le tour de ce boulot-là. J'avais besoin de me nourrir différemment. Les études, je suis diplômée depuis 98-99. À un moment donné, j'avais besoin d'autre chose. Et il y a aussi, en parallèle, en 2010, pendant la grossesse de Manon, j'ai aussi créé un blog. Parce que je m'ennuyais, parce que... En fait, j'avais peur de m'ennuyer, c'est-à-dire que le premier jour du congé maternité, je me disais, qu'est-ce que je vais foutre, quoi, tu vois, ce que je te disais, dans ma vie, il y a mon job qui occupait beaucoup de place, Et ce deuxième congé maternité, il me paraissait immense, quoi. Mmh. Et le père des enfants m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un blog ? J'avais essayé en 2006 pour première grossesse. Et puis en 2006, je m'étais retrouvée dans un format un peu où je racontais ma vie en mode carte postale, tu vois. Et je m'étais un peu paumée, j'écrivais à la famille et... Je sais pas, j'ai tourné en rond et je me suis pas... j'ai pas été prise dans ce truc-là. Enfin, ça m'a pas motivée. Mmh. Et puis en 2010, j'ai commencé à écrire. Mais 2010, c'était une période où les blogs commençaient à arriver vraiment. Où il y a des communautés qui se créaient. En 2006, j'étais sur Doctissimo, les janviettes 2006. Et en 2010, j'avais un blog. Et je parlais avec d'autres gens, d'autres nanas, d'autres mamans qui avaient aussi des blogs.
Il y avait beaucoup plus d'échanges... Sur les forums et tout ça, sur
les blogs. Avec les blogs, il y avait... en fait, les échanges, ils se faisaient à travers les blogs. Tu allais tous les matins faire ta revue de presse de blog et tu laissais un petit coucou, tu regardais l'article du jour de ta pote et vice-versa. Donc, tu avais des échanges comme ça qui se faisaient. Après, parce que les réseaux sociaux sont arrivés un peu dans la foulée... mais en 2010, je crois qu'il n'y avait pas encore grand-chose, en fait. C'était vraiment les blogs. Et avec l'arrivée des blogs, j'ai découvert tout un nouvel univers. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens.
Tu parlais de quoi, toi, par exemple ?
Sur mon blog, beaucoup de la maternité, puisque j'ai commencé en 2010, au moment de ma grossesse. Donc c'était sans doute, parce que ça commence à dater aussi, mais je pense essentiellement des réflexions sur la maternité, la mienne, mon corps aussi, pas mal. Ça a pas mal pris de place. Au départ, je bloguais anonymement, donc tout c'était possible, quoi. Tu vois, autant en 2006, je m'étais paumée dans le j'envoie une carte postale à la famille, et du coup, je m'étais retrouvée un peu embêtée par des sujets que j'avais envie d'aborder, mais en fait, non, et je me censurais. Et autant en 2010, j'étais Madame Parle, super. Donc, parce qu'il te fallait un avatar, il te fallait un pseudo, et voilà, donc. Donc il y avait une espèce de liberté qui arrivait dans les propos.
Et c'était quoi tes questionnements sur la maternité, tu t'en souviens ?
Alors moi, j'étais pas forcément dans des questionnements, j'étais plus dans la transmission, en fait. C'est souvent ce que je fais. Contrairement à des mamans qui arrivent sur le marché de la maternité. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais qui arrivent, tu vois, un peu toute fraîche, toute neuve dans ce domaine-là. Moi, j'ai quand même fait des études en lien avec la maternité. Puéricultrice, t'as quand même une année d'apport théorique sur tout ça. Plus les stages, plus mon expérience en crèche. Donc moi, la maternité, il y a mes questionnements de maman, de ce que ça réveille de ma propre histoire. Mais tout ce qui est puériculture, j'en connaissais quand même un rayon. Donc j'étais plus peut-être dans une transmission un peu, dans un accompagnement, du coup, enfin voilà, quelque chose où j'aimais bien transmettre aux autres. J'étais plus dans cet apport-là, je pense.
T'es le déclencheur d'une nouvelle toi ?
Alors, déclencheur d'une nouvelle moi, enfin, tout est lié, en fait, tu vois, c'est le travail que j'ai pu faire sur moi, c'est les rencontres. Mon blog, ça m'a apporté une bouffée d'oxygène, mon boulot n'était plus le seul centre d'intérêt. Il y avait tout l'univers des blogs. Alors, les blogs, c'est pas que les blogs, c'est aussi. En 2010, les marques se sont intéressées au blog et ont commencé à envoyer des produits. Alors, enfin, la première fois que j'ai reçu un échantillon de shampoing, mais j'étais waouh, mais c'est dingue! Je peux avoir un échantillon de shampoing avec mon blog! Enfin, le truc que t'as dans Voici, quoi. Mais moi, je l'avais reçu par la poste, s'il te plaît, à mon nom! C'était juste dingue! Et ça a grossi, les marques se sont intéressées davantage, donc le shampoing est devenu un vrai shampoing. Et puis il y a eu des vraies rencontres, les marques organisaient des événements, rencontraient des gens, et donc ça m'a fait vachement de bien. Et puis petit à petit, je sais pas, un jour j'ai pris un café avec une nana que j'ai connue par cet univers là et je sais pas trop dans quel état j'étais, dans mon souvenir j'étais pas forcément bien, je me cherchais. Et elle m'a parlé de coaching. Et moi, le changement, c'était pas mon fort. Hein. Donc, je me rappelle lui avoir dit, genre, ta gueule, ne me parle pas d'autre chose, tu vois. Ça me paraissait impossible de changer mon quotidien. Râler, me plaindre et dire que j'étais pas heureuse, ok, mais changer, non, faut pas pousser, quoi. Donc, du coup, il y a cette nana qui m'a parlé de coaching. Et puis, encore avec mon blog, il y a une autre nana qui a ouvert un concept qui s'appelait Happy Family. Je sais pas si tu connais, c'était un lieu, un espace de... j'allais dire coworking, mais je suis pas sûre. Enfin, il y avait un café, il y avait des lieux de consultation, un coiffeur. Le but étant de permettre aux familles d'avoir un lieu où elles pouvaient un peu tout faire, tout en faisant un peu garder leur enfant. Parce qu'il y avait une halte garderie dans cet espace. Et je sais pas comment, j'ai vu passer ça. Et j'avais proposé à Garance Hiverneau, en fait, de l'aider si elle avait envie, mais spontanément, tu vois, en mode ouh, allez, si t'as besoin d'aide, moi je suis directrice de crèche. Et on avait déjeuné ensemble avec son frère, et voilà, on avait parlé de ce mode de garde. Et pareil, je sais pas trop comment ni pourquoi, il se trouve que Garance avait fait un désu de pratique du coaching à Paris 8. Et je sais pas comment, en fait, mais tout ça mis bout à bout, le coaching a commencé, enfin tu vois, ça venait à moi, ouais, le coaching. J'ai aussi fait en 2013 une formation que je me suis payée moi-même, c'est la grammaire des émotions, qui est faite par alors c'est Isabelle Filiozat qui a créé cette formation, mais je l'ai pas fait avec elle, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre sur Paris. Et c'était sur 3 jours où on parlait des émotions, et ça avait été aussi un choc pour moi. Enfin, j'ai chialé tout le week-end, quoi, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi j'avais chialé, mais j'ai chialé tout le week-end, donc il s'est passé un truc. Et je m'étais dit, pourquoi pas une formation de coach parental avec Isabelle Filiozat. Donc il y avait un peu toutes ces pistes-là.
Mais parce que toi, tu sentais des difficultés dans ta maternité ou rien à voir? C'était...
Par rapport à quoi?
Bah toi et ta façon de vivre ta maternité.
Ah, moi c'était pas la maternité mon souci, c'était mon histoire tout court, quoi. Enfin, c'est les relations avec mes parents, ma place sur terre. J'ai toujours cherché, je m'étais posé la question d'une fac de psycho, même après le bac. J'ai toujours eu un attrait comme ça pour l'humain, pour essayer de comprendre, pour me comprendre. Non, j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi j'avais un fond un peu triste, tu vois. Enfin, non, c'est pas la maternité, c'est vraiment moi, en fait. C'est moi qui ai envie d'être un Pokémon en évolution, et je sentais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, et j'ai voulu bosser sur moi. Et après, forcément, la maternité, ça réveille des choses de ton histoire, hein. Tu veux faire... soit pareil que tes parents, soit complètement différemment, enfin, ou tu n'y penses même pas et tu reproduis des trucs. Enfin, ça réveille des schémas, ça réveille des questionnements, en tout cas. Et j'ai toujours été dans cette démarche de questionnement sur moi, et j'avais vraiment envie d'autre chose, et j'étais arrivée dans ce boulot-là, j'y ai trouvé un grand intérêt, le management c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu. La fonction publique pour moi c'était pas tellement adapté, en fait, parce que je passais beaucoup de temps à vouloir rentrer dans un moule. J'ai mis beaucoup d'énergie à le syndrome de la bonne élève, tu vois, où je voulais que papa et maman, ou papa ou maman selon qui je rencontrais, me disent bravo, c'est bien, tu travailles bien. Non, c'est pas le pitch de la fonction publique, en fait. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, ça, de capter ça, en fait, que j'étais pas là pour plaire à quelqu'un et que personne allait me dire bravo, enfin, ou tant mieux si quelqu'un le faisait, mais c'est pas complètement l'endroit où on le fait, en fait. J'ai pas trouvé mon compte, et j'ai passé beaucoup de temps à vouloir rentrer dans ce moule-là, alors que le moule, il me convient pas, en fait. Je ne peux pas rentrer dans ce moule-là, et c'est tant mieux, mais ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre. Et donc le coaching qui est arrivé à moi, en fait, au départ, c'était même pas forcément pour changer de boulot, hein. C'était pour aller me nourrir, apprendre des nouvelles choses sur l'être humain, retourner faire des études qui me font triper, parce que infirmière, ça m'a pas fait triper, en fait. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en 2013 à voir plusieurs choses qui me disaient le coaching, bon, ok, pourquoi pas.
Et du coup, ça t'a amené à prendre une autre décision aussi dans ta vie, te séparer du papa de tes enfants?
Alors ouais, c'est pareil, je pense que on était des gosses quand on s'est mis ensemble. Enfin, on avait 20 ans, on était des grands gosses, mais on était un peu des gosses quand même. On faisait des études, on vivait encore chez nos parents, et puis on a vécu ensemble, et puis on s'est construit comme adultes ensemble, en fait. On s'est construit comme parents ensemble. Et puis on a évolué, Enfin, moi, j'ai fait un travail sur moi, j'ai appris à me connaître davantage. Et puis, je pense qu'avec toute cette connaissance, ce changement, ces évolutions de vie, il y a un moment donné, bah, en fait, on ne s'aimait plus. Ça ne s'est pas matérialisé comme ça. Ça a été long parce qu'on est restés 19 ans ensemble. C'est quand même des... Plus c'est long, plus la prise de décision est difficile, en fait. Parce que en plus, moi, tu vois ce que je te disais, le changement, c'est pas mon fort. Que les croyances étaient très fortes en moi sur le « c'est l'homme de ma vie, on quitte pas, on reste toute sa vie avec la même personne, papa, maman... » Tu vois, enfin, des trucs très ancrés comme ça. Et imaginer mettre fin à ça, c'était insupportable, en fait, pour moi. C'était... changer de boulot, changer de mec, c'était pas possible, quoi. Il y avait quelque chose qui était très compliqué. Donc, c'est quelque chose qui a évolué et ça a pris beaucoup de temps. Et on s'est séparés en 2015, l'été 2015.
Donc, depuis 4 ans, tu es maman solo ?
Depuis 4 ans, je suis maman solo.
Comment tu gères
La première année, ça a été super chaud. Je m'étais dit, je suis Wonder Woman. Enfin, tu te le dis pas, mais tu le vis, quoi. Tu dis, faut que je maintienne, faut que je sois une super directrice, une super maman, une super femme, où je vais... Enfin, voilà. Et une espèce de truc comme ça, où tu te dis, faut que ça tienne, je tiens tout, tout va bien se passer, qui prend une énergie de dingue, en fait. T'es dans un contrôle en permanence. Du coup, ce qui était aussi très compliqué pour moi... C'était l'alternance. Donc on est parti tout de suite sur une garde alternée, une semaine. Donc il y avait une semaine où j'étais maman à 100%, du matin au soir. Bon, et bien sûr, ils étaient scolarisés, mais il y avait quelque chose où j'étais 100% dévouée à leur bien-être.
Est-ce que vous avez quel âge, là ?
Il y a 4 ans, Manon avait 5 ans et Léo, 9 ans. 8-9 ans. Donc il y avait cette semaine-là où le frigo était plein, où il y avait du PQ dans les chiottes, et voilà quoi. Et la semaine d'après, où je sortais, où j'allais sur des sites de rencontres, où j'avais du vin blanc dans le frigo et plus de PQ aux chiottes. et cette alternance, elle était assez compliquée en fait. Le switch... Tu vois, c'était... Mais, enfin, je caricature à peine, quoi. Enfin, c'était... Oh putain, faut qu'il y ait à manger dans le frigo. Là, il va falloir acheter du PQ, quoi. Il y avait vraiment un changement qui était... C'était aussi très... en termes d'énergie, c'était aussi compliqué, hein, d'être dans ces deux énergies différentes. J'avais vraiment l'impression d'être schizophrène, en fait. Mais vraiment, d'être dans deux postures complètement différentes. Et c'était épuisant. C'était complètement épuisant. Mais c'était un temps nécessaire, hein. C'est le temps, c'est le temps. La première année, quand tu te sépares après 19 ans, mais même pas 19 ans d'ailleurs, il y a toutes ces premières fois. La première fois que tu fais la bise à ton ex-mari, la première fois où tu dois enlever, je me rappelle où j'ai enlevé l'alliance, tu vois, c'est des moments assez forts. Le premier anniversaire de mariage, le premier anniversaire des enfants, enfin... La première fête des mères, la première fête des pères. Enfin, chaque date anniversaire est hyper... c'est pas la même, quoi. Tu reconstruis un nouveau truc. Et cette première année, c'était assez éprouvant. Et je sais plus à quelle période, mais je me rappelle de... Je sais pas quand on était, mais peut-être à la Toussaint. Ou la première fois où je suis arrivée aux vacances scolaires, où je pouvais un peu lâcher. Je me suis mise à chialer, je me rappelle, en sortant de la crèche. Genre, oh putain, ça y est, j'ai tenu pendant 3 mois, là. C'est bon, je lâche un peu, c'était assez dur, hein. C'était très très dur. Et j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mes études de coaching. Enfin, donc j'avais demandé une formation, j'ai été financée par mon employeur pour faire un diplôme supérieur universitaire à Paris 8. Et cette formation devait commencer en septembre 2015. Alors qu'on s'était séparés en juillet 2015. C'était à la fois « Waouh, très bien, je vais partir sur autre chose », tu vois. Mais en même temps, une année... j'étais financée par mon employeur, mais j'étais à 100% directrice de crèche. On m'avait pas enlevé d'émission. Hein. Ouais. Et il se trouve que cette année-là, ça a merdé à la fac. Il y a eu des embrouilles en interne. Ils ont supprimé la formation. elle a été supprimée. Quand j'ai reçu le courrier, j'étais un peu en mode putain, double peine, quoi, tu vois, on sait pas, il n'y a plus de formation. Mais en vrai, c'était dingue parce que ça aurait été insupportable de en plus rajouter une année d'études. Ça aurait été. Je sais même pas comment j'aurais fini l'année. Et ça a été décalé d'une année. Là, j'ai commencé la fac en septembre 2016. Donc, parfait, quoi. J'avais passé cette fameuse année de maman solo. Et là, après, j'ai entamé une nouvelle chose. C'était étudiante, maman solo et directrice de crèche. Alors là aussi, c'était assez costaud. Alors, le début des études, c'était plutôt cool. Genre, ouh, ça y est, j'ai des copains, je suis à la fac, c'est trop bien. Aller t'enrichir avec des matières qui te plaisent, être avec des gens dans le même état d'esprit que toi, qui veulent aider l'humain, qui veulent se changer de métier aussi. Enfin, ça crée une énergie de dingue. Donc ça, c'était canon. Mais puis, à un moment donné, bah, y a toute la phase où il y avait tout un apport théorique jusqu'en décembre. Et à partir de décembre, il y avait l'apport théorique, mais il fallait rajouter le stage. Et le stage, ça consistait à coacher 4 personnes. Donc coacher 4 personnes, c'est 4 fois 10 heures, non, 4 fois 10 rencontres d'une heure et demie. Donc tu rajoutes ça à tout le reste. Donc en fait, je faisais ça le soir, après la crèche, le week-end, quand j'avais pas les enfants. Donc c'était assez costaud. Et puis après, tu rajoutes en plus le mémoire. Alors là, le mémoire, c'était un peu... À mémoire universitaire, c'est juste insupportable, en fait, enfin, pour moi, parce que c'est très, très, très cadré. Moi, depuis 2010, je me disais, ouais, j'ai un blog, tu vois, je m'entraîne à écrire, c'est facile, que dalle. Parce que déjà, ça m'avait pris beaucoup de temps avec mon blog à dire je suis quelqu'un, j'ai des idées, tout ça, c'est pas si simple de dire je. Et puis là, on me disait, non, tu dis plus je, tu dis nous. Bah, pourquoi ? Parce que nous sommes des étudiants universitaires, on dit nous, quoi. Ben non. Et ça, plus tout le cadre imposé par le travail universitaire, plus les lectures, je me rappelle avoir lu une pile de livres incroyables, c'était aussi quelque chose, quoi. Rédaction du mémoire, ça a été un truc, un troisième accouchement, en fait. Hein. Ça, c'était plus douloureux encore que, que les deux premiers.
Sans péridurale.
Sans péridurale, celui-là.
Et t'écrivais, il n'y a pas si longtemps, dans un de tes articles, que t'avais mal pour tes enfants, t'avais peur, en fait, un petit peu pour tes enfants, de la réaction de ton divorce. En tout cas, c'était pas le schéma que toi, tu voulais pour eux.
Ouais, bah oui, c'est toujours pareil. C'est la notion de « faut que rien ne bouge », qu'un papa et une maman, ils sont là pour les enfants et que c'est mieux comme ça. Et autant, j'ai jamais douté du fait que notre histoire était finie, que c'était même plutôt chouette dans l'absolu qu'on ait le courage de s'offrir une autre vie, une autre continuité de la vie, mais de trouver des personnes en adéquation avec qui on est aujourd'hui. En tant qu'adulte, c'est plutôt chouette et très courageux et je nous adore pour ça. C'est magnifique. Mais par contre, l'impression de faire subir ça à ses enfants, alors c'est très ambivalent parce qu'à la fois, eux aussi, on leur offre l'image de chercher et construire ton bonheur, c'est hyper important, et que ça passe aussi par des choix compliqués. Donc ça, je pense que pour les enfants, c'est important. Et je me rappelle, quand on s'est séparés, ils nous avaient tous les deux fait la réflexion que « Ah bah c'est bizarre, depuis que vous êtes plus ensemble, vous écoutez de la musique. » Tu vois, comme s'il y avait un peu de la joie qui revenait dans les deux appartements, il y avait quelque chose de différent. Mais ça reste douloureux pour un enfant de ne pas voir son papa et sa maman. Alors, c'est pas douloureux tous les jours, mais tu vois, cet été, on est parti en vacances avec les enfants et un couple d'amis. Et je sais plus pourquoi, on s'est pris la tête. Et peu importe, mais je sais plus comment on en est arrivé au fait que c'était triste aussi. Enfin, mes enfants ont pleuré le fait de ne plus avoir leur papa et leur maman. Et que c'était encore compliqué pour eux. Enfin, alors, c'est peut-être compliqué 2-3 fois par an. Enfin, ils pleurent ça peut-être 2-3 fois par an. Et c'est plutôt vachement bien qu'ils le pleurent, tu vois. C'est que ça sort. Enfin, c'est quelque chose, je pense que c'est important de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'accueillir. C'est pas évident, hein, d'être à côté de tes gosses qui pleurent ça et te dire, bah ouais, c'est moi qui ai impulsé ça. Mais c'est comme ça, c'est OK. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de plus douloureux que de voir souffrir ses gosses, quoi. En tout cas, c'est... Enfin, tu vois, moi, quand ça, je me rappelle quand ils étaient petits, quand ils avaient de la fièvre ou quand ils étaient malades, j'avais l'impression de souffrir à l'extérieur de mon corps. C'était quelque chose qui est... Tu contrôles pas, quoi. C'est, tu souffres, mais c'est pas ton corps. Tu peux pas agir sur le corps de l'autre, mais ça te fait aussi mal, quoi. C'est assez nouveau, ça. Hein, de... ça, c'est la maternité, hein.
Mais c'était la culpabilité du choix que t'as fait.
Ouais, oui et non. Enfin, c'est... Oui, si, il y a une part de culpabilité, de plus être le couple parental idéalisé, rêvé, mais c'est pas ça la vie non plus. Donc je me perds pas dans ces choses-là. J'en suis triste de temps en temps parce que ouais, c'est comme t'as l'enfant idéal quand t'es enceinte, tu vois, puis quand tu le vois, il ressemble pas à ce que t'avais prévu. Bah pareil, t'as l'amour idéal, enfin c'est quoi l'amour idéal d'ailleurs, ça je sais toujours pas, mais t'as le couple idéal, le schéma idéal que la société t'a mis, que la religion t'a mis, que tes parents t'ont mis, que les parents de l'autre t'ont mis, enfin il y a toutes ces croyances qui font écho ou pas en toi, et c'est vraiment renoncer à ça en fait qui est douloureux en fait. Ouais, c'est ça qui peut être dur par moment, mais beaucoup moins avec le temps. Parce que tout le monde grandit et que toutes les blessures se soignent.
Alors, séparation et donc changement de vie professionnelle.
Ouais.
Parce que t'as décidé de... Ça y est, tu te lances dans le coaching là, à ton compte.
Bah donc le mémoire et tout ça, donc ça c'est bien fini. Hein. J'ai été diplômée en décembre 2017. Et au départ, je pensais pourquoi pas exercer d'ailleurs au sein de mon administration. Et puis c'est compliqué, et puis tant mieux d'ailleurs, parce que ça m'a donné envie de faire autre chose. Donc depuis l'année dernière, j'avais demandé à 80%, donc j'avais tous mes vendredis pour enclencher mon activité. Et puis, à force de travailler, j'ai eu de plus en plus de coaching, j'avais toujours les mêmes responsabilités à la crèche, de moins en moins de week-ends, de moins en moins de temps. Donc au mois de mai de l'année dernière, enfin là cette année en 2019, je suis arrivée complètement coincée chez mon ostéo qui à un moment donné m'a mis les mains sur le ventre et m'a dit laisse venir l'émotion. Je me suis dit, c'est quoi son trip là, moi j'avais pas d'émotion à ce moment là j'étais ok, puis en fait mais maintenant qu'elle le dit, j'ai envie de chialer, je chiale et elle m'a dit laisse venir l'image qui arrive. Et là j'avais une image de liberté, quoi. J'en pouvais plus de cette situation d'enclencher mon activité vendredi, samedi, dimanche, tu vois, d'être dans une dynamique de tu fais grandir quelque chose, tu essayes d'élever un projet, et bim, le lundi, 7h30, la crèche m'appelle, il y a du personnel en moins, comment on fait ? J'étais en train de donner le petit déj à mes enfants, et je me retrouvais là-dedans à gérer à la fois, à faire des calculs, vous êtes combien auprès des enfants, on attend combien d'enfants, ok, je fais un mail, tout en disant, Manon, finis ta tartine, Léo, mets tes chaussures. Enfin, j'en pouvais plus, en fait. C'était vraiment très, très compliqué. Et donc, j'ai pris conscience au mois de mai que j'étais peut-être arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Ce qui était compliqué pour moi, c'est qu'en tant que fonctionnaire, t'as pas le droit au chômage, donc il y a pas d'aide. Et puis, je m'étais dit, à un moment donné, il y avait une aide pour création d'entreprise, une loi de Sarkozy, sauf que manque de bol, elle n'est pas appliquée à la ville de Paris. Mais je m'étais dit, si j'ai 20 000 euros, je me casse. Tu vois, parce que j'avais calculé, peut-être que je pouvais avoir une indemnité de 20 000 euros si je partais. Et puis, donc ça ne le faisait pas. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, mais sur mon compte, je les ai les 20 000 euros. Mais tu sais, c'est des 20 000 euros que j'avais en mode, un jour, j'achèterais peut-être un appart, tu vois, enfin... Des héritages de ci, de là, des dons de mes parents, enfin des trucs que tu gardes comme ça. Mmh. Et puis j'ai regardé ces 20 000 euros et je me suis dit, non, mais c'est peut-être maintenant que j'en ai besoin en fait. Ouais, l'appart, je sais pas où j'aurais envie de vivre plus tard. Acheter un appart, est-ce que ça a un sens? Je sais pas en fait. Mais par contre, là, j'en peux plus. C'est maintenant que j'ai besoin de me casser. Et donc j'ai décidé ça. J'ai décidé ça fin mai. J'ai donné ma lettre au 1er juin en disant... Donc c'est une demande de dispo pour le 1er septembre. Donc là, depuis le 1er septembre, je suis à mon compte.
Tu es coach de vie.
Je suis coach. Alors, coach professionnel. Dans le sens où j'ai donc un diplôme de coaching. Et en tant que coach professionnel, tu as différents lieux d'exercice possibles. Et notamment le coaching de vie, donc d'accompagner des particuliers dans l'atteinte de leurs objectifs.
Et tu fais aussi du coaching parental?
Alors en fait, ouais, je... En fait, l'idée, c'est comment allier tout ce que je sais faire, tu vois. Mais le coaching, en fait, c'est accompagner des gens vers l'atteinte d'un objectif. J'ai toute mon expérience de plus d'une quinzaine d'années en crèche, donc je peux accompagner les gens dans leur parentalité. J'ai toute mon expérience personnelle de chemin de vie. J'ai toutes mes compétences aussi de manager. Enfin, donc tout ça, j'ai plein de domaines où je peux accompagner les gens, en fait. Et de plus en plus, je crois que de toute façon, on n'est pas séparés vie pro et vie perso, et on est la même personne. Donc, si tu travailles sur un objectif de vie perso, forcément, ça a des retentissements sur le travail, et vice-versa. Si tu travailles sur ton management, forcément, tu vas réfléchir à qui tu es. Donc, tout est lié, quoi. La parentalité, et en fait, j'accompagne une personne dans toute sa globalité.
Et alors, cette nouvelle vie, ça t'apporte quoi? Est-ce que t'as plus de temps avec tes enfants? Est-ce que c'était une partie de ce choix, d'ailleurs?
Ouais, ça a joué aussi dans ma prise de décision, parce que le petit-déj de 7h30 en gérant la crèche, c'était pas super ok. Parce que le stress... écoute, donc là, j'ai un mois de recul, hein, c'est pas non plus du long cours, mais c'est plutôt super agréable d'être là... détendu surtout le soir, parce qu'avant il y avait un sas de décompression, j'arrive à 19h, le temps que je me détende, que je fasse le dîner, enfin c'était vraiment un combat en fait, hein. C'était la course, quoi. C'était vite rentrer, vite les laver, vite voir si les devoirs c'est ok, vite m'assurer que tout était en place, alors que là on est dans quelque chose de complètement différent. Je peux préparer à manger avant qu'ils rentrent. Bon, genre, mais je le fais pas, mais bon, on peut. Genre la meuf organisée. Mais en tout cas, je peux faire les courses en dehors des samedis où tout le monde les fait. Je suis détendue parce que je fais un job qui me plaît et j'ai pas de supérieur hiérarchique. Et le stress, pour l'instant, ne me pèse pas du tout, bien au contraire. Donc je suis beaucoup plus disponible. Ma fille, cette année, fait de la gym, ce qu'on n'a jamais pu faire parce qu'il faut être à 17h... dans un autre bled, faut prendre le bus et avant c'était compliqué de m'engager là-dessus parce que on n'avait pas forcément quelqu'un qui avait envie de faire ça, parce que rentrer à telle heure c'était compliqué. Enfin voilà, donc du coup cette année il y a cette souplesse là. La difficulté là que je ressens, c'est de faire la différence entre maman à la maison et maman indépendante qui travaille.
Qui travaille à la maison, du coup.
Qui travaille à la maison, parce que la frontière, elle n'est pas évidente. Et si j'ai rien le mercredi après-midi, pourquoi je laisserais ma fille au centre de loisirs, en fait? Non, ça craint, je vais la prendre. Mm-hmm. Mais si je la prends, je fais plus rien non plus. Donc il y a cette espèce d'équilibre à trouver. Ma fille est très, 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 très forte là-dedans, en mode mais quand même, on se voit pas beaucoup. Voilà, donc elle est très balèze. Non, mais je te dérangerai pas. D'accord.
Ils sont contents, tes enfants?
Alors voilà, donc ma fille est assez contente parce qu'elle peut exploiter sa mère pour voir ses copines et faire d'autres choses. Mon fils, donc, qui est en quatrième, qui va bientôt avoir 13 ans, est sans doute un peu content, mais bien saoulé quand même. Parce que depuis qu'il est en sixième, lui, il avait la chance d'avoir un emploi du temps plus light. En tout cas, il finissait pas toujours à la même heure. Il avait l'appartement pour lui tout seul. Donc, le choix d'aller sur les écrans, les tablettes, les machins. Et là, y a sa mère. Et du coup, il y a eu une petite période de réajustement. Il était bien en colère, donc... J'allais dire, je suis assez fine, ça va les chevilles. Mais c'est pas faux, en fait. C'est-à-dire que j'ai bien capté qu'il y avait un truc qui le dérangeait. Et mon fils a beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions et à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et par contre, moi, j'adore parler à sa place. C'est-à-dire que je vais lui dire, non, mais je vois bien, là, t'es saoulée parce que ta mère, elle est là, t'avais envie d'être peinard, quoi. Et là, il me regarde un peu en mode, putain, qu'est-ce que tu fous dans ma tête? mais bon, ça apaise un truc, tu vois. Et voilà. Et donc, du coup, des fois, ça m'arrive de le laisser tranquille aussi, d'aller faire mes comptes rendus de séance au café d'à côté, parce que déjà ça me fait sortir. Il vit sa vie, je pense que c'est bien normal qu'il ait aussi des espèces de liberté. Et voilà, il y a un réajustement à trouver pour tout le monde, en fait. Mais non, c'est plutôt cool de pouvoir profiter d'eux sereinement, de pas avoir ce stress-là, et puis de construire mon avenir, c'est canon, quoi.
Qu'est-ce que tu penses que ça a changé chez toi, la maternité ?
Alors la maternité, avec le recul, je sais pas trop, mais je sais que quand j'ai eu les enfants, j'ai eu la sensation vraiment d'être complète. J'avais l'image d'un cercle ouvert, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui était en moi comme ça, quelque chose d'ouvert comme ça, qui était pas sécure. Et avoir eu les enfants, ça m'a... J'étais complète, quoi. Quelque chose de beaucoup plus... C'est ok, quoi. J'avais mes enfants. Après, ça ouvre à d'autres choses, mais... Donc, il y a eu ça. Ce que je te disais tout à l'heure, la notion d'avoir mal dans un autre corps que le tien, mais aussi d'être heureux dans un autre corps que le tien, tu vis plus pour toi uniquement, tu vis aussi pour eux. Après, il y a un texte de Khalil Gibran que j'aime beaucoup, qui est la notion de... Je sais pas si tu connais. En fait, on a tendance à... Peut-être spontanément à se dire qu'on fait des enfants pour soi, que c'est nos enfants, quelque chose de possessif. Et en fait, non, nos enfants sont pas nos enfants. Je vais pas te citer le poème parce que je le connais pas par cœur, mais en gros, ce sont les fils et les filles de l'univers, de la vie, tu vois. Et ils passent à travers toi. Ils viennent à travers toi pour arriver sur... pour naître au monde, en fait. Toi, tu leur permets juste d'arriver. C'est pas mes enfants, c'est des enfants de la vie. Et je crois que ça, par contre, c'est la garde alternée, le fait de plus les avoir en permanence avec moi, ça m'a fait grandir plus vite. Vraiment, c'est cette notion qu'ils ont leur propre existence, ils ont leur propre peine, ils ont leur propre joie. Il y a toute une partie de leur vie que tu connais pas. Et en fait, c'est ok, quoi. C'est leur vie, c'est juste leur vie. Et toi, t'es à côté pour t'assurer que quand tu les as, c'est ok, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils peuvent se ressourcer un peu avec toi. Mais l'objectif, c'est qu'ils soient heureux, en fait, qu'ils grandissent. Et peut-être que du coup, la question est, est-ce que la maternité, ça a changé quelque chose? Ça m'a peut-être aussi fait comprendre que moi, de la même façon... je pouvais vivre ma vie et respecter mes propres choix et prendre soin de moi finalement aussi, tu vois, en espèce de boucle comme ça. Ce que j'ai compris pour mes enfants, ça me l'a réparé chez moi sans doute aussi, quoi.
On va passer aux petites questions de la fin de l'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Une maman parisienne? Maman parisienne, ce qui m'apparaît, c'est speed. C'est speed parce que bon, tu me diras, j'ai jamais vécu ailleurs, mais c'est des horaires de travail. Bon, je suis encore très empreinte de mon ancien job au final, hein. C'est des horaires de travail un peu longues. C'est courir dans les transports. J'ai vraiment l'image aussi de, on fait tous un peu tout en même temps et ça manque de souffle, hein, maman parisienne en fait. Enfin, je me le suis créé avec mon nouveau job, mais voilà, un peu quelque chose d'étouffant en ce moment, même si j'ai pas envie de quitter Paris, hein. J'aime Paris.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré?
Mon endroit kids-friendly préféré? Surtout pas le parc. Je déteste le square, j'ai tendance à vouloir taper les gosses qui piquaient les râteaux et les pelles de mes gosses. Je suis assez sauvage, en fait. je fais pas partie de cette génération de mamans... Qui va au parc pour parler avec les autres mamans, qui va dans les lieux à la mode. Non, j'ai pas d'endroit kids friendly, quoi. Limite, c'est chez moi le plus kids friendly.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Mes projets rien que pour moi, écoute, c'est continuer de lancer mon activité pour permettre de continuer de vivre à Paris, justement, parce que la vie est chère et du coup, j'ai vraiment envie de. À la fois de gagner suffisamment d'argent pour vivre dans cette ville, et puis aussi parce que j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes vers plus de bien-être. Voilà les projets pour moi, c'est beaucoup de travail. Et puis avec les enfants, il y a les vacances de la Toussaint. Alors mes projets. Je rigole parce qu'en fait, j'ai réfléchi cet été à... un peu ce que j'aimerais leur faire découvrir, et dans la liste des trucs super glamour, il y a Auschwitz. Voilà, c'est quoi tes projets? Emmener mes enfants à Auschwitz. Bon, il y a plus fun, j'aimerais bien les emmener à Amsterdam, j'aimerais bien les emmener, pourquoi pas à Arcachon aussi, sur la dune du Pilat. Voilà, enfin, j'aime beaucoup sortir de Paris avec eux.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Emmanuel, Je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 41 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.